5 ans de prison pour avoir tiré sur des gendarmes. Un chef de bande de Païta a été condamné aujourd'hui par le tribunal correctionnel de Nouméa. L'État au chevet des entrepreneurs calédoniens. Une conseillère de Bruno Le Maire est présente à Nouméa et elle a rencontré des chefs d'entreprise sur le terrain. Harold Martin, invité de Transparence, le signataire de l'accord de Nouméa, appelle les Calédoniens à rester mobilisés. Le calvaire quotidien des habitants du sud du Mont d'Or, dans ce journal, notre reportage sur place. Et comme tous les soirs, une page spéciale Jeux Olympiques de Paris. L'entraîneur calédonien de Teddy Riner, Laurent Caléja, était notre invité ce midi. Bonsoir à toutes et à tous. Le couvre-feu à nouveau prolongé sur le territoire. La décision a été prise aujourd'hui par le haut-commissaire qui précise qu'il restera en vigueur jusqu'au lundi 19 août de 22h à 5h. La vente et le transport d'armes et d'alcool, y compris chez les cavistes, restent également interdites sur l'ensemble du territoire jusqu'à cette date. Le haut-commissariat précise également qu'à ce jour, 2343 personnes ont été interpellées et que grâce aux opérations de déblaiement, la RT1 est désormais praticable sur toute sa longueur. L'État est là et sera là pour accompagner les entrepreneurs calédoniens. C'est le message délivré ce matin par Claire Durieux, conseillère du ministre de l'Économie et des Finances Bruno Le Maire, qui est présente en Nouvelle-Calédonie depuis une semaine. À côté des dispositifs de soutien déjà mis en place par l'État et qui ont évolué à plusieurs reprises, Claire Durieux a souhaité rencontrer ce matin des chefs d'entreprise impactés par les émeutes. Direction Nimbo, donc, où elle avait rendez-vous avec une dizaine de chefs d'entreprise qui ont souffert de l'insurrection à des degrés divers. Certains ont tout perdu, d'autres ont vu leur chiffre d'affaires réduit considérablement, voire totalement. D'autres encore ont été contraints de licencier leur personnel ou d'avoir recours au chômage partiel. Claire Durieux était accompagnée ce matin pour cette rencontre par Christopher Gigès, membre du gouvernement, qui voit dans cette visite de terrain un signe de plus de l'engagement de l'État.
C'est vraiment un signe très fort de la présence de l'État pour être à nos côtés et être aux côtés des entreprises. Donc c'est important de pouvoir échanger avec elles et avec des entrepreneurs pour voir qu'est-ce qu'ils ont besoin pour la suite.
Et ça permet aussi peut-être d'ajuster un certain nombre de mesures prises par l'État.
Oui, c'est exactement ça. On est dans l'amélioration permanente et en lien permanent avec l'État pour faire évoluer les dispositifs, pour poursuivre le dispositif de chômage partiel, notamment sur son financement, mais aussi faire évoluer la partie fonds de solidarité de l'État pour qu'il soit plus simple, qu'il puisse bénéficier plus largement aux entreprises. L'État est là pour nous accompagner, mais ensuite il faut qu'on soit aussi au rendez-vous. On a des réformes à faire, on a des mesures de soutien à mettre en place, et c'est bien ce qu'on souhaite mettre en place avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. On a un nouveau modèle économique à construire et on doit le construire avec l'État, les acteurs politiques et la société civile.
Est-ce que c'est possible dans le contexte politique actuel ?
C'est nécessaire. Je considère qu'aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie avancera si on est en capacité d'avancer à la fois sur l'institutionnel, sur le sécuritaire, parce qu'il faut rétablir l'ordre en Nouvelle-Calédonie, mais également sur l'économique et social. Je crois que les entreprises veulent savoir dans quel cadre ils s'inscrivent, et le sécuritaire, l'institutionnel et l'économique participera à la refondation et à la reconstruction de la Calédonie.
Le rendez-vous de ce matin avait lieu au sein de l'entreprise Soco Metal à Nimbo. Cette entreprise de chaudronnerie qui travaille en très grande partie pour l'industrie du nickel a perdu beaucoup de son chiffre d'affaires en raison, bien sûr, de l'arrêt de l'activité de l'usine du Sud et de la fermeture annoncée de celle du Nord. Pour la gérante de l'entreprise, Barbara Vlamin, qui a dû mettre ses salariés en chômage partiel, la visite de la conseillère du ministre est évidemment utile.
On a eu quelques vols, mais insignifiants par rapport à tout ce que certains collègues ont souffert. Mais nous, ce qui nous impacte maintenant, c'est l'effondrement global de l'économie. Et c'est surtout les blocages de tous les sites miniers et des usines métallurgiques. C'est ça qui nous impacte énormément, puisque nous sommes très dédiés à ces activités pour à peu près 60% de notre chiffre d'affaires. Il y a actuellement un fonds de solidarité de l'État qui nous fait une année de référence en 2022, qui n'est pas forcément la bonne année de référence et pour lesquelles on n'est pas éligible, alors qu'en fait on souffre quand même énormément. Donc c'est important de remonter ces informations pour que l'État puisse adapter justement le mécanisme d'attribution de ces aides.
La conseillère de Bruno Le Maire est en liaison permanente avec les acteurs économiques du territoire depuis le 13 mai d'ailleurs. Mais pour Claire Durieux, rien ne remplace une visite de terrain.
C'était important pour le ministre et l'État d'être aux côtés de l'économie, et c'était important aussi d'être aux côtés des entrepreneurs, des femmes et des hommes qui ont été, à titre personnel et professionnel, très affectés par ce qui s'est passé. Et donc le fait que je sois en Nouvelle-Calédonie et puis ici sur le terrain pour les écouter, les encourager aussi, parce qu'il y a eu beaucoup de courage en Nouvelle-Calédonie. C'était très important. Depuis le début de la crise, je tiens chaque semaine une réunion en visio avec toutes les fédérations économiques de Nouvelle-Calédonie. Donc en fait, chaque semaine, on a pu échanger sur les dispositifs, leurs difficultés depuis le début de la crise et ajuster en temps réel les dispositifs. Donc on a fait déjà évoluer plusieurs fois depuis le début de la crise les dispositifs pour répondre à leurs attentes. Mais rien ne remplace le fait de venir, d'échanger en direct, de voir aussi directement la situation. C'est très utile de venir et de les entendre. On sent une envie de repartir, une envie de continuer. Et ce qui est certain, c'est que l'État est là et sera là pour faire tout ce qu'il peut pour contribuer à ce que ça reparte et que l'économie de Nouvelle-Calédonie sorte de la crise.
Claire Durieux, conseillère de Bruno Le Maire, qui a ensuite longuement rencontré les chefs d'entreprise présents ce matin à Nimbo, avec des enseignements sans doute précieux pour évaluer les besoins à court et à long terme de l'économie calédonienne.
Vous écoutez InfoSoir, il est 17h51.
Harold Martin est furieux quand on parle d'accalmie ou de retour progressif à la normale. Le signataire de l'accord de Nouméa était ce midi l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence, Jean-François Baudin.
Pour Harold Martin, il ne faut pas s'acclimater ni s'habituer à la situation que vit la Nouvelle-Calédonie depuis le 13 mai. Il estime que l'ordre est loin d'être revenu et il invite les Calédoniens à rester mobilisés. Il est revenu sur les différentes exactions et notamment sur le cas de ce Calédonien qui a tué un émeutier à Ducos au tout début des événements et qui est désormais incarcéré en métropole. Et il annonce le lancement d'un comité de soutien.
Il faut que nous, les Calédoniens, on soit solidaires. Et il ne faut pas qu'on le laisse tomber, ce malheureux. Donc, moi, je vais lancer un comité de soutien à ce Calédonien. Je ne veux pas donner son identité. La page Facebook, là, elle doit être en train de sortir au moment où je vous parle. Et moi, je demande aux Calédoniens d'adhérer massivement. Pourquoi ? Parce que ça, c'est des choses simples qu'on peut faire. Pour que ce malheureux en prison, il sache qu'il y a quand même du soutien en Calédonie. Et puis, on va s'organiser avec ce comité de soutien pour lui trouver un avocat en métropole. Alors, l'affaire, elle est logée toujours ici. Donc, il y a un avocat ici qui s'en occupe et qui s'en occupe bien. Mais il faudra à un moment donné trouver, je suppose, un spécialiste de la légitime défense. Parce que là, c'est un cas avéré de légitime défense. Mais c'est avéré. Pourquoi l'envoyer en métropole ?
On va vous dire qu'il y en a 11 de la CCAT qui ont été extradés en métropole également.
Ah, ben voilà. Et l'équilibre et la formule du procureur de la République qui est venu ici. Il l'a dit plusieurs fois, il n'y a pas deux poids et deux mesures. Oui, mais la légitime défense, c'est peut-être quand même autre chose. Deux poids, deux mesures, je veux bien, quand les affaires sont similaires. Mais là, ce malheureux, il n'a pas demandé à tuer quiconque, lui. Il a juste essayé de sauver sa peau et de celle, parce qu'il s'était regroupé dans cette famille. Et donc, il y avait une dizaine de personnes.
Interrogé sur l'évolution de la situation, Harold Martin considère que c'est loin d'être terminé et il estime que l'on peut craindre la date du 24 septembre.
On a intérêt à craindre parce que rien n'est fini, rien n'est fini. La CCAT ira jusqu'au bout du bout. Et à mon avis, ils n'ont pas tellement d'autres choix dans les circonstances actuelles. Ils iront jusqu'au bout. Mais qui va aller jusqu'au bout de la CCAT avec leur organisation qui est toujours féroce sur le terrain? Je vois à Païta, il y a un QG là où ils se réunissent les uns et les autres et ils décident des actions du soir. Il y a des QG comme ça partout. Évidemment, le centre névralgique, c'est Saint-Louis, évidemment. Mais ceux-là, ils vont continuer. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Un, il faut rester mobilisé. Deux, il faut vraiment que nous, les Calédoniens, on apporte notre soutien aux 11 000, 12 000 personnes qui sont bloquées derrière Saint-Louis. Parce que c'est pas possible, qu'il faut se mettre une seule minute à la place de ces gens-là.
Et pour soutenir les habitants du Mont-d'Or-Sud et inciter l'État à intervenir à Saint-Louis, le signataire de l'accord propose de manifester devant le Haut-Commissariat. Selon lui, seule une décision politique permettra cette intervention contre ce qu'il appelle le centre névralgique de la CCAT. Il réclame également l'interpellation des commanditaires qui n'ont pas encore été entendus. Au chapitre politique, Harold Martin estime que le report des élections provinciales proposé par le président de la République serait un aveu de faiblesse.
Je veux dire que M. Macron, il pense qu'il ne va pas trouver d'accord entre maintenant et la fin de l'année. Alors évidemment, là-dessus, ça, je peux comprendre, parce que pour moi, il n'y en a pas d'accord. Comment vous voulez faire un accord avec l'UC? Il faut bien distinguer d'ailleurs le Palika de l'UC. Moi, j'ai rien contre le Palika, absolument rien. Ils sont responsables de rien, ils ne sont pas responsables de cette casse, etc. Seulement, le Palika, il fait un communiqué dernièrement pour dire on veut bien discuter, mais à partir de l'indépendance association, rien d'autre. Ah ben oui, mais on n'a pas voté pour ça, on n'a pas voté trois fois pour ça. Et puis ce que je dis toujours et qu'ils ont tous tendance à oublier, c'est qu'au-delà du fait qu'on a voté trois fois, on a aujourd'hui un droit à être français dans cette Calédonie, un droit à être français. Ce droit, on va nous l'enlever. Ça y est, c'est fait, reconnu par la communauté internationale.
Harold Martin considère que dans les circonstances actuelles, il serait difficile d'organiser les provinciales, mais si elles sont effectivement reportées, il faut, dit-il, des contreparties.
Les contreparties, elles sont simples, elles sont dans le programme de nos partis politiques. On voit bien que pour en sortir, il faut qu'il y ait une administration directe, c'est-à-dire que l'État reprenne les choses en main. On le voit bien tous les jours, on le voit. Hier, vous aviez une émission très intéressante avec Le Monde économique. Il dit rien n'avance. Ben forcément, rien n'avance. Et il faut bien comprendre pourquoi rien n'avance. Et pourquoi l'État ne donne pas beaucoup de sous. Ce dont on a besoin, c'est rien pour l'État. Il ne faut pas raconter d'histoire. Qu'à faire quoi une goutte d'eau dans la masse de la dette française? 3 100 milliards de dettes. Et on leur demande quoi? 50 milliards d'euros. Mais ça n'avance pas. Pourquoi? Parce que, un, le président de la République, il a dit il faut que l'ordre soit rétabli. Et c'est normal qu'il le dise. Il est venu ici pour nous le dire en plus. L'ordre n'est toujours pas rétabli. Il ne va pas donner de l'argent à des indépendantistes qui gouvernent le pays, aussi bien au gouvernement qu'au Congrès. Ensuite, comment voulez-vous que dans cette situation, on s'en sorte ? Je vois les opérations. Alors, l'État m'étend, donc la Nouvelle-Calédonie m'étend. Alors, comme la Nouvelle-Calédonie n'a pas d'argent, alors on lui fait un prêt. Enfin, on ne s'en sortira pas.
Le seul moyen de s'en sortir, selon Harold Martin, c'est une administration directe de la Calédonie par l'État. Et concernant l'avenir institutionnel, il préconise ce qu'il appelle le chacun chez soi.
La solution institutionnelle, elle existe. Elle a été brillamment énoncée par Baquès.
L'autonomisation des provinces.
Oui, alors on peut employer ce mot-là, pour un autre. Moi, j'emploie le mot « chacun chez soi ». Voilà, comme ça, on se comprend bien. Chacun chez soi, et chacun chez soi fait ce qu'il veut. Parce que Nicolas Metzdorf, Sonia Baquès ont beaucoup critiqué l'accord de Nouméa. Quand nous a amené dans le mur, c'est scandaleux. On nous a truandés, parce qu'on nous a dit de vivre ensemble. Et puis, c'est pas de vivre ensemble du tout, c'est juste au contraire, etc. Alors moi, je partage pas ça, parce que je considère que l'accord de Nouméa est un très bon outil. Mais en revanche, je suis complètement d'accord avec eux sur la conclusion. C'est que l'accord de Nouméa, c'est fini. Donc, la base des discussions, parce qu'on a un droit ici à vivre français, c'est pas l'indépendance association ou l'État associé. C'est pas tout ça. C'est on reprend la page à zéro. Il n'y a plus d'accord de Nouméa. Il est fini. De toute façon, il est fini. La restriction du corps électoral aussi, elle est terminée. C'était lié à l'accord de Nouméa. Et c'est pour ça qu'on était dans cette phase transitoire pour avoir une restriction du corps électoral. Tout ça, c'est fini. On reprend la page à zéro. Ce qu'il faut surtout, bah, c'est qu'on mette en place la proposition de Baquès parce que c'est la seule façon de pouvoir fonctionner pour l'avenir. D'autres l'ont dit avant. Pierre Frogier l'a dit.
Une interview d'Harold Martin qui sera rediffusée dimanche soir juste après notre édition à 17h45. Elle est aussi disponible en audio et vidéo sur notre site internet.
Merci Jean-François Bodin. Et dans l'actualité politique toujours ce week-end, le Palika invite ses militants et sympathisants. Ses responsables tiendront une réunion dans chaque province demain matin. Le Palika dit avoir pris la mesure de la situation dans laquelle se trouve le territoire et il s'interroge sur la manière dont il prend en charge dans son organisation les dégâts pour la population à tous les niveaux. Dans chacune de ces rencontres, il s'agira d'établir un état des lieux de la crise, d'identifier les dispositifs de sortie de crise et de poursuivre et soutenir les initiatives solidaires. 17h58, dans un instant, la suite de l'actualité. Nous partons pour le sud de la commune du Mont-d'Or.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi. Va chez AXA, agence Ixone Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixone, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059. La Calédonienne des Eaux vous facilite la vie. Payez directement vos factures en ligne ou demandez le prélèvement automatique. C'est simple, c'est rapide et surtout écologique. Rendez-vous au plus vite sur le site www.cde.nc. Pour vous comme pour nous sur RRB, il n'y a pas de jour sans la Calédonienne des Eaux. Info soir, Gilles Ménage.
Voilà 3 mois que les habitants du Mont-d'Or Sud vivent au rythme des navettes. Chaque jour, s'ils veulent se rendre à Nouméa, ils doivent attendre parfois de longues minutes, voire de longues heures avant d'embarquer. Si bien que des Mont-d'Oriens ont décidé de vivre à Nouméa la semaine et de ne rentrer que le week-end. Une situation qui devrait s'améliorer dans les jours qui viennent. Hier, l'État a annoncé un renforcement du dispositif des navettes maritimes entre le wharf du Vallon d'Or, Boulary et Port-Moselle. Reportage au sud du Mont-d'Or, Nicolas Legrand.
Oui, c'est un soulagement pour les habitants du Mont-d'Or Sud. L'État a fait 2 annonces importantes hier. D'abord, qu'il allait prendre en charge le coût des navettes et des barges mises en place par la province Sud et la mairie du Mont-d'Or depuis le mois de mai. Rien que pour les navettes, l'enveloppe est estimée à 140 millions de francs par mois. Et surtout, le nombre de rotations quotidiennes va augmenter pour absorber le flux de voyageurs souhaitant se rendre à Nouméa. Théophile de Lassus, le directeur de cabinet du haut-commissaire, s'est rendu au Vallon d'Or cet après-midi.
La situation de Saint-Louis est une situation compliquée. Actuellement, la route est fermée par la gendarmerie pour permettre un travail de police judiciaire et d'ordre public d'être mené. Pour la sécurité des usagers de la route qui ne sont pas en sécurité aujourd'hui sur cette route. Et donc, dans l'attente, la province sud et la mairie du Mont-d'Or avaient mis en place des systèmes de navettes ainsi que des systèmes de barges. Et l'État a décidé de rembourser à la province et à la mairie du Mont-d'Or le coût de ces navettes et de ces barges et de travailler à augmenter ses capacités dans les jours et semaines à venir. L'État va faire son maximum pour augmenter ses navettes et à côté de cela, continuer à avancer sur la sécurisation de la route de Saint-Louis.
Le blocage de la RP1 à Saint-Louis perturbe aussi l'approvisionnement de la partie sud de la commune. Aujourd'hui, les commerces de proximité et le casino de la Coulée se sont organisés et sont beaucoup mieux achalandés qu'il y a quelques semaines. Mais certains rayons restent malgré tout vides. Le gaz est aussi une préoccupation importante des Mondoriens. Ce matin d'ailleurs, une barge a livré plusieurs centaines de bouteilles qui ont toutes trouvé preneur très rapidement. Julie Temahouri est la nouvelle gérante de la station mobile de Ploum.
Depuis le début, c'est quelque chose qui est très demandé, le gaz. On a une livraison ce matin, on a été prévenu ce matin qu'il y aura une livraison de 105 bouteilles pour notre station. Là, c'est parti en 15 minutes, il n'y avait plus de bouteilles de gaz. Là, avec notre fournisseur, on s'organise pour avoir une livraison toutes les semaines afin de pouvoir satisfaire la clientèle du Mont d'Or. Au début, toute la population du Mont d'Or n'avait plus de gaz, comme on est bloqué à cause de la route de Saint-Louis. Aujourd'hui, ça va, ça s'améliore. On essaie de s'organiser au mieux pour éviter que les personnes soient toujours sans gaz.
Une longue queue s'est rapidement formée devant la station et à l'arrivée du camion, les clients ont été servis au pas de course.
C'est vraiment une denrée qui se fait rare et dès qu'on a l'info, on essaye d'être réactif. Il faut tomber au bon moment sur les réseaux sociaux, sinon il faut passer au bois. Et dès qu'on voit la barge, on se doute qu'il y a l'alimentation. Ça commence à être un peu juste. Parce que depuis le début, depuis le 13 mai, on essaye d'économiser, de changer un peu les habitudes de consommation pour pouvoir en utiliser le moins possible et laisser la priorité à vraiment ceux qui en ont plus déjà. Là, c'est notre jour de chance, on va dire.
Depuis 8 heures que j'attends pour le gaz.
Là, il est midi moins le quart, là. C'est une bouteille. C'est pénible, hein. C'est pénible.
L'augmentation du nombre de navettes et de barges est donc un enjeu important pour les habitants du sud Mont d'Or. Des études sont en cours pour définir les modalités de la nouvelle organisation. Elle devrait être mise en place dans les prochains jours pour répondre au mieux aux besoins de la population.
Le reportage au Mont d'Or Sud de Nicolas Legrand.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est donc l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Notre question du jour concerne justement le Mont d'Or. Pour désenclaver le Mont d'Or Sud à moyen et long terme, êtes-vous favorable à la construction d'un viaduc? Ou préférez-vous la mise en place d'un ferry? Si vous êtes favorable à un viaduc, vous tapez 1. Si vous préférez le ferry, vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 31-46. Je vous rappelle la réponse à notre question d'hier. 99% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS estiment que Michael Forest doit démissionner du gouvernement. Ils ne sont que 1% à être d'un avis contraire. 5 ans de prison ferme pour avoir tiré sur des gendarmes, c'est l'une des peines prononcées aujourd'hui par le tribunal correctionnel de Nouméa à l'encontre de 3 individus poursuivis notamment pour des faits de violence, de vol et d'entrave à la circulation, Léana Colombo.
Oui, les trois individus originaires de la tribu de ND étaient jugés pour des faits commis entre le 13 mai et le 26 juin. Le principal prévenu écope d'une peine de 5 ans d'emprisonnement ferme. L'homme de 37 ans, considéré comme l'un des maîtres d'œuvre de cette affaire, a notamment été jugé pour des tirs avec un fusil Tika contre un véhicule blindé et des gendarmes. Il voulait soulever la poussière, a-t-on pu entendre à plusieurs reprise lors de ce procès. La procureure de la République affirme que ces mouvements étaient étudiés au préalable, voire même des semaines à l'avance. L'avocat de la défense, maître Stéphane Bonomo, justifie ces faits en déclarant que son client a vrillé au moment de la mort des membres de sa famille à Païta et Dumbéa, mais qu'il ne souhaitait pas toucher les gendarmes, juste les assourdir. Celui qui se définit lui-même comme un lutteur et qui faisait bouger la bande sur le littoral était, tout comme ses complices, placé sur écoute téléphonique. Il a également été reconnu coupable d'avoir volé dans un conteneur des bombes d'artifice pyrotechnique et des armes de type fusil de chasse. Les deux autres prévenus ont reçu des peines moins lourdes, 3 ans d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis pour l'individu de 48 ans, reconnu coupable notamment de détention d'armes et de dégradation et de préparation d'actes de violence. Le plus jeune des trois, 25 ans, avait un casier judiciaire vierge et a déclaré être allé dans la rue pour se battre contre le dégel du corps électoral. Il écope quant à lui de 3 ans d'emprisonnement, dont 2 avec sursis et une peine à effectuer sous bracelet électronique. Tous se voient dans l'interdiction de porter une arme durant 5 ans et un retrait du permis de chasse. L'avocate de la partie civile, maître Nathalie Lepape, s'est exprimée à l'issue du procès.
La journée a été dense en émotions, dense en tensions aussi. Chaque partie a pu exprimer, surtout je crois pour les prévenus, ce qu'ils voulaient dire. Pour la partie civile que je représente, à savoir la gendarmerie nationale et les gendarmes qui ont été victimes de tirs par arme à feu à plusieurs reprises, de jets de pierre, de jets de bombes lacrymogènes, dont des faits qui sont gravissimes. C'était aussi de faire passer le message de la dangerosité des faits. La difficulté de leur métier et puis aussi d'indiquer que ils sont ce sont des gens qui exposent leur vie pour protéger les nôtres.
Le principal prévenu a également été condamné à verser au total 200 000 francs à chaque victime. Il a été remis en détention dès la fin du procès, tout comme l'homme de 48 ans.
Merci Léana. Et dans l'actualité, notez encore cette arnaque qui circule sur Facebook. Elle concerne les transports en commun. La page s'appelle « Carte des transports publics de Nouvelle-Calédonie ». Elle propose aux internautes calédoniens de répondre à trois questions afin de remporter un concours. À l'issue, une distribution de 400 cartes permettrait aux gagnants de voyager gratuitement pendant 6 mois. C'est évidemment une fausse information et on rappelle que le réseau de bus Tanéo n'a toujours pas repris depuis le début des émeutes. Et depuis le 13 mai, justement, plusieurs milliers de personnes ont perdu leur emploi ou sont maintenant en chômage partiel. Parmi elles, les personnes en situation de handicap sont les premières impactées. Alors, depuis la semaine dernière, le Fonds pour l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap a mis en place plusieurs dispositifs pour venir en aide à ces travailleurs, Charlotte Coulson.
Et oui, l'expérience de terrain des agents du FIPH le montre bien. Les personnes en situation de handicap rencontrent plus de difficultés à trouver un emploi car elles sont globalement moins qualifiées que le reste des travailleurs. En conséquence, ils sont également la première cible des licenciements. C'est notamment le cas depuis le 13 mai. Alors, pour pallier les difficultés rencontrées pendant la crise, le FIPH a mis en place 2 types de soutien financier. Une première aide sera versée aux entreprises demandeuses pour soutenir le maintien des salaires. On écoute les précisions de Jérôme Canva, coordinateur Action Emploi Handicap au FIPH.
Donc on propose aux entreprises qui ont eu un chiffre d'affaires impacté durant le mois de mai et ou juin et ou juillet de pouvoir bénéficier d'un maintien des salaires de l'ensemble de leurs travailleurs handicapés. Cependant, en contrepartie, on leur demandera de s'engager à ne pas licencier pour des raisons économiques leurs salariés jusqu'à la fin de l'année. Le but étant de maintenir le plus possible nos travailleurs handicapés en emploi, puisque c'est un public qui a une forme de fragilité, notamment pour retrouver du travail. Le but étant de les maintenir le plus possible en emploi.
Et puis une seconde aide couvrira 80% des frais de transport privé des travailleurs handicapés pour se rendre sur leur lieu de travail. Un fonds mis en place notamment grâce aux contributions des entreprises qui n'emploieraient pas suffisamment de personnes en situation de handicap.
Effectivement, le fonds est suffisamment doté pour pouvoir assumer cette aide hein, sur les 3 mois. Il est alimenté, ce fonds, par les contributions en fait, des entreprises qui sont soumises à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Donc à noter qu'une entreprise de plus de 20 salariés a une obligation d'emploi de 2,5% de sa masse salariale. Si elle remplit son obligation, elle ne paye pas de contribution. Si elle n'est pas en mesure de remplir son obligation, elle va effectivement financer et contribuer au fonds. Donc depuis un certain nombre d'années, le fonds est malheureusement, j'ai envie de dire, bien doté, qui sous-entend que beaucoup encore d'entreprises ne remplissent pas cette obligation. Et donc la trésorerie du fonds va permettre de faire face à ces dépenses.
A noter que toute entreprise employant des travailleurs handicapés ou souhaitant en employer peut d'ores et déjà faire la demande sur le site internet handicap.nc. Une 3e aide pourrait à l'avenir être mise en place pour soutenir le financement par l'État du chômage partiel dédié aux travailleurs en situation de handicap.
RRB, les 18h09.
Dans l'actualité festive de votre week-end, les Halles de Magenta accueilleront demain la 2e édition du marché solidaire. Sarah Mégerie.
Une 30aine d'exposants, des agriculteurs, des horticulteurs et des artisans locaux viendront proposer leurs produits à des prix attractifs. Au programme aussi une animation musicale et il sera possible de se restaurer sur place. Le mois dernier, ce marché était une réussite, explique Bruno Aurelio, le gérant de la société Pacific Fair.
Le marché, ça a vraiment été les produits frais, notamment Canela, hein, qui était là le mois dernier, qui revient ce mois-ci. On est dans la saison de la mandarine, donc il en reste encore, il y en aura encore demain matin. On avait également des pêcheurs, donc ça sera encore le cas demain, avec de la crevette, du poisson frais. Donc là aussi, à des prix imbattables. Donc ça, tout était parti. Au bout de 2 heures, il y avait plus rien, je vous cache pas. Toute la partie produits frais, fruits et légumes, des œufs, des produits transformés avec du miel, la confiture, des achats, mais également une partie artisanale avec nos artisans, avec des créations originales pour faire des petits cadeaux à moindre coût.
Le marché solidaire ouvre ses portes demain de 8h à 13h sur le parking des Halles de Magenta.
Oui, toujours à Nouméa, demain, Sarah, la mairie propose une visite guidée à la maison Higginson de 10h à 15h.
Le thème « Regard sur la ville à travers la collection municipale du Fonds d'art ». Le parcours de visite sera ponctué d'échanges avec l'aide d'un jeu de cartes destiné à explorer les imaginaires partagés. Et puis comme chaque année, l'ACAPA organise sa kermesse annuelle pour venir en aide aux personnes âgées démunies. Priscilla, la secrétaire de l'association.
L'objectif de sa kermesse, c'est pour que nous aussi on maintient jusqu'à la fin de l'année, comme nos subventions ont été suspendues. Et on essaye avec nos moyens de faire fonctionner l'ACAPA. Et on sera ravis de vous accueillir samedi. J'espère que vous serez nombreux à venir nous voir. Et c'est pour aider aussi nos personnes âgées. Parce que là, depuis des événements, on fonctionne avec... D'habitude, ils sont 140 adhérents. D'habitude, tous les lundis et les samedis, on a au moins une soixantaine de personnes. Là, depuis les événements, on fait des groupes de 30 personnes. On a diminué par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure pour les subventions. Et venez les aider, nous serons ravis de vous recevoir à l'ACAPA.
Le rendez-vous est donc donné demain de 9h à 16h dans les locaux de l'ACAPA.
Et dimanche, ce sera très attendu évidemment le grand retour du vide-grenier du centre-ville, place des Cocotiers.
Jusqu'à musique à la place de la paix, les bonnes affaires sont à dénicher à partir de 7h30 et ce jusqu'à 12h30. Dimanche également, le parc municipal de Rivière-Salée accueille lui aussi un vide-grenier de 7h à 13h, organisé par l'association Solidarité RS. Les habitants du quartier se sont mobilisés pour nettoyer le site afin d'accueillir l'événement dans les meilleures conditions. Notez que les places sont limitées et payantes. Plus d'informations au 52 05 01 52 05 01. Et enfin, le marché de Mamie revient dimanche pour une nouvelle édition. Il se tiendra sur la place de la mairie de 8h à midi. À retrouver sur place des produits locaux et de terroir, des fruits et légumes de saison, des produits vivriers, des plantes et de l'artisanat local. Notez que ce mois-ci, il sera possible de se restaurer sur place. Des tables seront mises à la disposition du public sur le deck de la mairie.
Et le marché de Mamie, c'est bien sûr à Farino, 18h13. Dans un instant, toute l'actualité sportive.
Vous savez que vous devez faire contrôler ou changer les pneus de votre véhicule de marque premium, mais savez-vous que Prestige Motors est aussi un service minute de montage de pneumatiques? Un service première classe, rapide, avec de nombreuses références disponibles et sans rendez-vous dédié à tous les véhicules premium. Vous méritez le meilleur, vos pneus aussi. Prestige Motors, au 6e kilomètre. Téléphone 44 30 00.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Savez-vous que si vous êtes équipé d'un chauffe-eau électrique, vous pouvez couper son alimentation si vous vous absentez plus de 24 heures afin de supprimer la consommation due au maintien de la température?
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Spécial info jeu SMS sur RRB, le jeu du million 40-20 change de formule. Maintenant, c'est tous les 1500 SMS pile sur le compteur pour gagner 100 000 francs de bons d'achat à dépenser où vous voulez, comme vous voulez. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Alors pour jouer, envoyez RRB par SMS au 40-20. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 40-20. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 40-20. Bonne chance.
RRB, première radio d'information.
La suite du journal et c'est du sport, Gilles Ménage.
Et l'actualité sportive est bien sûr dominée par celle des Jeux Olympiques de Paris.
Les pages spéciales des Jeux Olympiques sur RRB avec la Banque de Nouvelle-Calédonie, partenaire premium de Paris 2024.
Une ambiance incroyable, un public en or. Laurent Calleja a vécu les Jeux Olympiques avec beaucoup de bonheur et d'intensité. À peine rentré de Paris, le manager calédonien du judoka Teddy Riner est passé ce midi dans nos studios. Il est bien sûr revenu sur les deux titres olympiques de Teddy Riner. Si le judoka français a été un exemple pour tirer l'équipe de France vers le titre en équipe, il a savouré particulièrement son titre en individuel, nous a dit Laurent Calleja.
La médaille en individuel, elle a un petit peu plus de valeur parce qu'on est allé, on a échoué à Tokyo, donc ça a été compliqué d'être troisième. Alors même si t'es troisième au jeu, c'est quand même génial, mais là, ça a été compliqué. et à 35 ans d'aller chercher une médaille d'or et à Paris, ça a une autre saveur. La saveur par équipe, elle est géniale, mais c'est quand même pas pareil.
Il avait une certaine pression quand même en se disant finalement qu'il pouvait à nouveau échouer. Il dégage une certaine sérénité quand même quand on le voit.
Oui, quand on le voit, il dégage une certaine sérénité parce qu'en fait, il est prêt. Il est prêt, il est impassible et tout, sauf que la matinée qu'on a passée, en fait, pour rappel, il y a eu deux matchs le matin et deux matchs l'après-midi pour être champion olympique individuel. Et la matinée qu'on a passée a été compliquée psychologiquement quand même. Il n'était pas dans son assiette, c'était pas Teddy qu'on connaissait d'habitude, avec une pression énorme à la maison. Donc il a fallu gérer cette matinée-là et l'après-midi après ça a déroulé.
Alors, Calleja va maintenant s'atteler à dresser un bilan de ses Jeux pour Teddy Riner et lui préparer un programme pour les 4 ans à venir. Puisque le judoka français a annoncé son intention de disputer les JO de Los Angeles en 2028. Laurent Calleja fait partie depuis près de 15 ans de la petite équipe qui travaille avec Teddy Riner. C'est à lui qu'il reviendra de choisir les personnes qui l'accompagneront pour les 4 ans à venir. Nous avons demandé à Laurent Calleja s'il souhaitait en faire partie.
Je ne sais pas encore, il faut que j'en discute avec mon entourage, mais en même temps, c'est des choses qui ne se refusent pas, parce que c'est... Voilà, mais en même temps, oui, quand on fait le bilan, j'aurais passé 20 ans auprès de lui. Alors, c'est beaucoup de temps passé, c'est beaucoup d'abnégation sur plein de choses, mais ouais, c'est des choses qui ne se refusent pas. Et puis, c'est quelqu'un qui est déjà rentré dans l'histoire, qui va encore remarquer l'histoire dans 4 ans. Enfin, j'espère pour lui, j'espère pour nous, j'espère pour la France, mais c'est d'accompagner l'athlète de tous les temps, c'est quand même juste un truc incroyable, quoi.
En attendant, Laurent Calleja va souffler un peu et nous a avoué qu'il espérait rentrer en Calédonie dans de meilleures conditions.
Je rentre dans un état d'esprit où, bah oui, je suis très content, je suis très heureux et tout. Et j'ai vécu, Tony Estanguet disait à l'ouverture des Jeux que c'était les Jeux de l'amour. Et donc, moi, j'ai vécu les Jeux de l'amour et j'arrive dans un pays qui est déchiré. Et donc, c'est compliqué pour moi. C'est compliqué pour mon entourage, pour l'association des Kimonos du Cœur aussi. Je remercie tous les bénévoles d'avoir œuvré aux Kimonos du Cœur pendant mon absence. Mais, ouais, c'est difficile de rentrer dans un pays qui est déchiré comme ça. Donc, j'aimerais tellement que ce pays ressemble aux Jeux de l'amour, que ce soit un pays de l'amour demain. Donc, on verra bien. Je vais me poser. Et puis on verra.
Laurent Calleja, le manager calédonien du judoka Teddy Riner, qui était ce midi dans les studios de RRB dès son retour de Paris. Et puis l'agenda du week-end au JO avec un programme chargé et les dernières épreuves olympiques, Léo Fichou.
Et oui, les JO sont bientôt terminés. La dernière épreuve aura lieu pour nous dans la nuit de dimanche à lundi à minuit. Ce sera la finale du basket féminin avec, on l'espère, l'équipe de France, les tricolores qui affrontent la Belgique demain matin à 6h en demi-finale. Les hommes, eux, sont déjà qualifiés pour la finale. Ils joueront contre les États-Unis pour tenter de décrocher l'or qui leur avait échappé en 2021 à Tokyo. Rendez-vous dimanche matin à 6h30. Et pour suivre la rencontre à Nouméa, une fan zone est mise en place au clubhouse du TC Montcoffin.
Mais avant cela, Léo, on a droit à un joli programme, et ce, dès ce soir.
Et en ce moment même, la natation en eau libre dans la Seine, le 10 km homme avec deux Français qui sont encore dans le top 10. Il reste un peu moins d'un kilomètre de course. Il y a aussi du golf avec le troisième tour qui a commencé il y a quelques minutes, troisième tour féminin, après deux journées. La Française Céline Boutier est sixième à 5 coups du leader. L'autre Française, Perrine de la Cour, est 57e. Le quatrième et dernier tour aura lieu demain à 18h. À 19h ce soir également, du tennis de table par équipe avec la petite finale. La France affronte le Japon. Les hommes, donc les frères Lebrun et Simon Gauzy, vont tenter de décrocher le bronze.
Un week-end de finale en sport collectif avec forcément des médailles à la clé pour nos tricolores.
Et des médailles d'or, on l'espère, en football. Dès cette nuit à 3h, les coéquipiers d'Alexandre Lacazette affrontent l'Espagne en finale du tournoi olympique. En volley chez les hommes, les tricolores vont tout faire pour conserver leur titre. Ils sont opposés à la Pologne en finale. Début de la rencontre, ce sera demain soir à 22h. Et enfin, en handball féminin, les Françaises, elles aussi tenantes du titre, joueront contre la Norvège à minuit dans la nuit de demain à dimanche pour conserver leur titre. En athlétisme, on aura le droit à de nombreuses finales ce week-end avec des Françaises et des Français, bien évidemment. Les relais 4x100 et 4x400 mètres hommes et femmes, le 110 mètres haies et le 10 000 mètres féminin, mais aussi le 400 mètres haies et le 5 000 mètres masculin. Et puis on termine le tour des finales de ces Jeux Olympiques avec des chances de médailles en kayak, en taekwondo, en breakdance ou encore en escalade. Escalade bloc et difficultés femmes avec Oriane Berton et hommes avec Paul Janfet.
C'était les pages spéciales des Jeux Olympiques sur RRB avec la Banque de Nouvelle-Calédonie, partenaire premium de Paris 2024.
Et bravo à Hélène de Nouméa qui est aujourd'hui la gagnante de notre jeu de mémoire de jeu et qui remporte donc un bon carburant de 5000 francs offert par Shell, notre partenaire. Notre question du jour était la suivante. En équitation, quelle personnalité politique a participé à la victoire de l'équipe de France de saut d'obstacle aux Jeux Olympiques de Montréal en 1976? Vous aviez le choix entre Jacques Chaban-Delmas, Gérard Larcher et Laurent Fabius. La bonne réponse, c'était Gérard Larcher. L'actuel président du Sénat, avant sa carrière politique, était vétérinaire. Et il était le vétérinaire de l'équipe de France d'équitation. Médaillé d'or en 1976 à Montréal. L'ancien Premier ministre Jacques Chaban-Delmas, lui, était un sportif accompli, on le sait, mais il pratiquait surtout le rugby et le tennis et n'a jamais participé au JO. Il a joué le tournoi de double de Roland-Garros, toutefois en 1956. Laurent Fabius, lui aussi, Premier ministre, est un excellent cavalier. Il a participé à de nombreux concours, mais jamais aux Jeux Olympiques. Rendez-vous demain pour une nouvelle question de mémoire de jeu sur Radio Rythme Bleu. L'agenda sportif du week-end dans le reste des hors JO, bien sûr, avec du tennis à Nouméa, la petite finale du championnat d'Océanie, de football des moins de 16 ans et le début du rugby championship.
La première des 6 journées, effectivement, du rugby championship avec cette compétition internationale de rugby à 15 qui rassemble, on le rappelle, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud et l'Argentine. Demain à 15h30, l'Australie ouvre le bal face à l'Afrique du Sud. Dans la foulée, à 18h15, la Nouvelle-Zélande recevra l'Argentine. L'an dernier, ce sont les All Blacks qui avaient remporté la compétition. Dans la région, toujours, mais en football, cette fois, les moins de 16 ans calédoniens disputent la petite finale du championnat d'Océanie de leur catégorie d'âge. Dimanche à midi, les jeunes cagous seront opposés à Tahiti. Match important puisque le vainqueur sera qualifié pour la prochaine Coupe du Monde des moins de 17 ans.
Et on termine, Léo, cet agenda sportif du week-end avec du tennis à Nouméa.
L'Open du Receiving continue demain et dimanche dès 9h et jusqu'en fin de journée. C'est le gros tournoi de l'année pour le club qui reçoit les meilleurs joueurs du territoire. En tout, environ 130 participants avec l'entrée en lice des 3e séries. C'est donc la dernière ligne droite avant les phases finales prévues le week-end prochain.
Merci Léo Fichou, 18h22, on termine avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
On vous écoute pour les détails, Nicolas.
Alors, cette nuit, le temps sera sec sur l'ouest. La première partie de nuit sera bien étoilée, puis des nuages déborderont du relief, principalement sur la moitié nord. Ailleurs, le ciel sera passagèrement nuageux à nuageux sur l'est, où des averses parfois modérées seront attendues. Le vent de secteur est soufflera entre 15 et 20 nœuds sur les loyautés et aux extrêmes nord et sud. Les températures minimales évolueront peu, comprises entre 16 et 18 degrés. Elles descendront même jusqu'à 13 degrés, ce serait dans l'intérieur. Demain matin, un temps généralement sec accompagné de belles éclaircies se maintiendra sur l'ouest. Ailleurs, le soleil sera souvent contrarié par le passage de nuages porteurs d'averses, principalement sur l'est et la pointe sud. Le vent d'est à est-sud-est se maintiendra entre 15 et 20 nœuds, localement autour de 10 nœuds. Ce sera sur la majeure partie de la côte ouest, Gilles.
Merci Nicolas pour toutes ces précisions.